En préparant ce message pour ce matin, je me suis d'abord demandé s'il fallait reparler avec vous de cette vague de terreur d'il y a 3 semaines. Ou si finalement, nous en avions largement assez entendu et que nous préférions passer à autre chose, comme à Noël qui approche ou au temps de l'Avent. Je me suis demandé ce que vous vous attendiez. Je n'ai pas fait de sondage. Et donc, sans réponse très claire, j'ai retourné la question vers moi. Et finalement, oui. Ou plutôt, non. 3 semaines après, malgré la résilience dont nous faisons tous bien heureusement preuve, la terreur n'est pas vraiment passée. Malgré les boules scintillantes et les lutins articulés, les questions et l'inquiétude continuent tout doucement à tambouriner. Depuis, c'est sûr, nous sommes revenus à notre quotidien, mais il me semble plus tout à fait quand même de la même manière. Certains mots, lourds de sens, ont été prononcés. Guerre. C'est la guerre. On ne peut pas rester indifférent. Il paraît que très tristement depuis, les ventes de jouets de guerre pour enfants ne cessent d'augmenter. Il paraît aussi, il y a aussi des bonnes nouvelles. Une association de Caen a choisi d'échanger les jouets de guerre des enfants contre un livre. Voilà une belle initiative. Alors, depuis ces 3 semaines, des mesures ont été prises dans les écoles, on le voit tous, dans les lieux publics, des rassemblements ont été annulés. Il n'est pas possible de continuer vraiment comme avant, même si dans notre région si belle et privilégiée, comme si rien ne s'était passé. Nous sommes touchés. Alors, même si cette guerre tue déjà dans de nombreux pays du monde et depuis longtemps, mais c'est étrange, il semble qu'au loin, le bruit des morts reste moins assourdissant pour nos oreilles. Vous n'avez pas l'impression ? Un peu comme si le poids des vies, ici ou ailleurs, n'était pas le même. Oui, du bruit. Du bruit, il y en a eu du bruit. Capharnaüm, tohu-bohu. En temps ordinaire, les médias en raffolent, mais alors là, paroles répétées, images en boucle, témoignages multipliés, analyses de spécialistes, vérités et contre-vérités, réseaux sociaux affamés, même la Marseillaise vaillamment entonnée aux quatre coins du monde, et puis au milieu de tout, bien sûr, calculs politiques savamment orchestrés. Parmi ces bruits, j'ai aimé être attentive plus particulièrement au bruit du monde religieux. Nombreux et bienveillants messages de soutien, mais aussi, comme partout, des réactions, malheureusement, à faire froid dans le dos. Un responsable d'église chrétienne de l'agglomération d'Annecy assène fièrement que les spectateurs du concert du Bataclan ont tout bonnement mérité leur sort. Venus écouter un concert de rock, le diable en personne, ils l'ont vu en face. Je reprends ces mots. Violence inouïe à faire tomber par terre. Vérité assénée pour trouver du sens à tout prix. C'est rassurant de tout expliquer. Quel gâchis. Qui sommes-nous, nous chrétiens, habitants de cette terre, étrangers parmi les 7 milliards d'autres? Avons-nous tout compris mieux que les autres? Bien sûr que non. Nous sommes bénéficiaires d'un appel, d'un simple et bel appel, des porteurs de bonnes nouvelles. Nous n'avons souvent pas plus de réponses que les autres face à la terreur. Mais en revanche, Nous savons avec certitude, par le message que le Christ nous a laissé, quel chemin ne pas emprunter. Celui de la haine, celui de la condamnation, celui du repli sur soi. Le sens de notre vie, c'est l'évangile de la grâce, c'est la bonne nouvelle de la rencontre avec celui qui nous délivre de nos culpabilités et des réponses trop faciles. Nous croyons que ce qui nous arrive de difficile dans nos vies n'est pas la conséquence de nos supposées fautes. C'est le Christ lui-même, celui que nous attendons dans ce temps de l'Avent, qui est venu nous l'annoncer. Souvenez-vous comme lors de cette rencontre avec un homme aveugle de naissance et où des gens très savants lui demandent « Dis donc, maître, c'est la faute de ses parents ou sa faute à lui s'il est aveugle ?» Et Jésus répond que c'est de la faute de personne et le guérit. Alors peut-être que devant l'insupportable et sans grande réponse, il faut parfois savoir se taire. Rejoindre le silence comme un retrait momentané du monde pour se retrouver. Chercher au plus profond de soi l'essentiel, la source, l'essence de nos vies. Se taire comme une première étape nécessaire pour être capable peut-être de mieux parler ensuite. Se taire parce que dans ces moments-là, il n'y a vraiment rien à dire de sensé, puisque le sens n'est plus là. Se tenir en silence, c'est accepter de ne pas savoir, de ne pas avoir de réponse toute faite. C'est aussi accepter sa fragilité, et c'est difficile parfois. Et c'est enfin se remettre confiant dans les mains de celui qui a justement choisi le non-sens. Le doute et la petitesse pour nous donner la vie en abondance. Jésus, notre Christ, se sachant condamné, prend le temps d'un long échange avec ses amis. C'est un temps de prière. Le passage partagé de l'évangile de Jean raconte comment Jésus choisit de prendre ce temps de la parole face au mal qui le guette. Faire silence et prier. Le mal et la souffrance sont un non-sens, oui, mais l'espérance est là, oui. Jésus sait qu'il va mourir, mais prend encore le temps de la présence et des paroles d'espérance auprès de ceux qu'il aime. Devant notre vide, c'est l'espérance qui peut nous ranimer, pour créer encore et toujours de la vie. Vous connaissez le récit de création dans la Genèse. Dieu crée en séparant et il crée à partir du tohu-bohu. Le tohu-bohu en hébreu peut se traduire par bouillie informe. Vous vous rendez compte? Dieu a créé ce monde à partir de la bouillie informe. À partir de l'informité, Dieu crée les plantes, les animaux, les êtres humains. Et la Genèse nous dit, il vit que cela était beau. Dans notre informité, dans l'informité du monde, dans la confiance et en Dieu, peut naître la beauté. Et quand Dieu crée, vous l'avez entendu, il sépare. À notre tour de créer un monde plus juste, chacun à notre manière, un monde plus fraternel et plus paisible, en séparant. Alors pas chez les autres, ça c'est facile, mais en nous, en séparant en nous ce qui est tendresse ou laideur, ce qui est bienveillance ou violence. Les premières semaines difficiles passées, nous sommes appelés aujourd'hui à prier, et à prier encore et encore pour se rappeler tous ces autres, les victimes des guerres dans le monde, de la barbarie et de la bêtise humaine. En ce moment aussi, prier pour notre planète. Et quand nous le pouvons, nous devons bien sûr nous lever pour agir, Nous devons aller, nous devons dénoncer et soulager. Soyons debout pour nous battre à notre façon avec pour seules armes la confiance et la bienveillance. Oui, il y a des paroles bibliques qui restaurent, qui redonnent du sens, qui mettent debout, des mots qui viennent de Dieu, qui réinsufflent la vie là où elle semblait avoir disparu. La parole de Jésus pour ses disciples dans Jean en fait partie. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Parole de tendresse pour nous, quand nous traversons incertitude et tourments. Et cette paix placée en nous, c'est vrai, nous échappe souvent. Pourtant, elle est là. Elle est tout au fond de nous, elle est peut-être tapie dans notre nuit, mais elle est là. Écoutons-la, ouvrons nos yeux, sentons sa présence, goûtons ses bienfaits. Après les larmes vient la joie, après un vendredi de mort vient le dimanche de vie. Écoutons encore notre Sauveur. Levez-vous, partons d'ici, dit-il à ses amis dans le passage de Jean. Va vers toi. À nous maintenant, levons-nous, quittons nos lieux de mort et ressuscitons. La vie, elle seule, est notre lumière. Et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Amen.